Alors, comme il était marqué dans le programme, nous lirons ce soir dans l'évangile de Matthieu, selon Matthieu, au chapitre 6 et du verset 19 à la fin. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent les robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni de les robes. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous un souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car les nations recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin de toutes ces choses. C'est que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, je crois que nous n'étions pas présents à la dernière réunion, mais dans le début de ce chapitre, le Seigneur parle avant tout à ses disciples sur la manière d'exercer leur piété, que ce soit envers les hommes ou envers Dieu. Et c'est dans les versets de 1 à 18. Mais depuis le verset 19 jusqu'au verset 34, il leur inculquera les conséquences qui en découlent. Amasser des trésors dans le ciel, aimer et ne servir qu'un seul maître, être dans la lumière et recherchant le royaume de Dieu et sa justice, écarter tout souci quant aux besoins du lendemain. Le Seigneur illustrera sa pensée par plusieurs exemples très simples, mais demeurait d'une remarquable actualité. Ça confirme bien les paroles de Matthieu 24, 25. Mes paroles ne passeront pas. Amasser des trésors. Versets 29 à 22. Le verbe amasser et le mot trésor ont une même racine, que ce soit en grec, que ce soit en latin. C'est la parole thesauros, si bien que le premier verset que nous avons lu pourrait très bien se lire « Ne thésaurisez pas des trésors ». Alors, dans ce verbe « amasser », il y a beaucoup de choses positives. On se rappelle que Joseph a parcouru toute l'Égypte pour s'amasser du blé comme la neige, est-il dit. C'était pas peu de choses, c'était bien. C'était en Genèse 41, pour ceux qui veulent noter. Dans les Proverbes 6, c'est la fourmi qui amasse de la nourriture. C'est bien. Dans Proverbes 6, 8, dans Proverbes 10, pardon, c'est le fils sage qui amasse sa moisson. C'est donc encore positif. Et il y a surtout un verset qui est extrêmement important pour attester cela. C'est Deutéronome 28, 1 à 14, où les bénédictions matérielles le sont la conséquence de l'obéissance de Dieu. Écoutez bien. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements, tu seras béni. L'Éternel te fera surabonder en possession. C'est positif. Et on a les exemples d'Abraham, dont il nous est dit qu'il il était très riche en bétail. Ça nous est dit de Job dans le premier chapitre. Cet homme était très riche, nous a-t-il dit. Et voici tout ce qu'il y a de positif dans le fait d'amasser. Mais il y a aussi un verbe amasser, c'est le même, mais alors qui est complètement négatif. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois, et voici, tout était vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 2. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors, et ton cœur s'est élevé à cause de ta richesse. Ézéchiel 28. C'est dit ça au sujet du roi de Tyr, qui est donc une figure de Satan. Luc 12, versets 16 à 21. Insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Exemple. Le jeune homme riche, il n'a pas suivi le Seigneur parce qu'il avait le grand bien. Exemple, Nabal, qui n'a pas voulu apporter de la nourriture à David et ses hommes, et il a dit, et cet homme était très riche. Ben voilà. Alors, il semble bien que la différence que le Seigneur veut donner à ses disciples, ce n'est pas de amasser ou de ne pas amasser, c'est ce qu'on amasse. Et alors là, il est parlé ensuite, n'amassez pas des trésors sur la terre. Alors ces trésors, qu'est-ce que c'est? Ces trésors, ça peut être trésors de l'argent, des métaux précieux, des objets rares, du luxe, toutes choses qui sont superflues et dont on ne se sert pratiquement pas tous les jours. En revanche, les besoins journaliers qui sont signalés dans les versets 24 à 34 sont ceux dont l'homme fait usage tous les jours. La nourriture, la moisson, le vêtement. Donc, il y a d'un côté, n'est-ce pas, ce conflit, d'autant plus que les trésors sont sujets à être volés. Il y a des figures, la teigne, la rouille, etc. Tout ça, la teigne, c'est tout ce qui vient de l'intérieur. Les voleurs qui perdent la maison, ils viennent de l'extérieur. Donc, ce sont tous des biens qui sont sujets à périr ou à être volés. Mais qu'est-ce que sont alors les trésors dans le ciel ? Amassez-vous des trésors dans le ciel. Ce sont ce que nos dons, nos facultés, notre énergie, notre temps, nos biens produisent lorsqu'ils sont mis au service et à la disposition du Seigneur, de son témoignage et des frères. Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ, mon Seigneur, comme une perte. J'ai fait la perte de tous. Afin que je gagne Christ. C'est Paul dans Philippiens 3. Abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà ce que c'est qu'amasser dans le ciel. Ensuite, ça c'est 1 Corinthiens 15. Quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à ses petits ne perdra point sa récompense. C'était pour le Seigneur. Si l'ouvrage de quelqu'un demeure, il recevra sa récompense, 1 Corinthiens. Et pour finir, 1 Timothée, qu'il soit riche, riche en bonnes œuvres, prompt à donner, libéraux, s'amassant comme trésor. Écoutez bien cette phrase, c'est vraiment une paraphrase de ce qu'on a lu dans Matthieu. Hein. Amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir. C'est 2 Timothée 6, 18. Et alors, quelle raison le Seigneur donne-t-il d'amasser des trésors au ciel et de pas sur la terre? Eh bien, nous l'avons vu. Il y en a une, en tout cas, n'est-ce pas, que nous, où on nous montre la fragilité et l'inutilité de ces trésors où on met son cœur, tandis que les autres, n'est-ce pas, eh bien, sont faits pour le Seigneur. Mais il y a une chose, c'est que le Seigneur nous dit pour comme excuse pour le faire, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, évidemment, ici, il s'agit des affections du cœur, et nous l'avons dans la parole, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, dont en particulier ses trésors. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ces premières épîtres de Jean. Tout homme que son cœur, ça c'est les affections, y porta, et tous ceux qui avaient un esprit libéral vinrent et apportèrent l'offrande de l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour son service. Donc les dons là qui étaient faits, et il y avait des dons des précieux, ils étaient faits parce qu'ils venaient du cœur. Tous les hommes, n'est-ce pas, que son cœur y porta. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'édification du temple ? La même chose. Ils offraient volontairement d'un cœur parfait. C'est là, encore une fois, que le cœur est le motif. 1 Corinthiens chronique. C'est pas Corinthiens, c'est chronique. 1 Chronique 29. Et puis alors, il y a ce grand conseil qui nous est donné dans les psaumes que tout le monde connaît, je crois bien. Si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Donc, il s'agit là pour amasser les biens et discerner ce qu'ils sont, ne pas se laisser guider par son cœur et ses affections. Première décision, c'est la première décision que nous avons à prendre dans ce chapitre. Avoir le ciel pour destination de nos activités et de nos dons. Maintenant, nous passons au deuxième sujet, qui est l'œil. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres. Verset 22-23. L'œil simple, c'est-à-dire qu'il a pour objet prioritaire le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est lumière. C'est Jean 8. Et cela par sa parole. Pourquoi ? Parce que sa parole est lumière. Psaume 119, verset 105. Alors le corps entier est dans la lumière. C'est ce que nous avons là au verset 26. Si donc quelqu'un marche de jour, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce monde. Jean 11. Et ensuite, pour confirmer que tout ne peut se faire que par le Seigneur, nous avons ce merveilleux verset des psaumes, « Par devers toi est la source de la lumière. En ta lumière, nous verrons la lumière. » Voilà un verset qui résume tout à fait ce petit paragraphe de Matthieu. Et alors, on a l'image de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus. Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, c'est Éphésiens 5. Donc, nous voyons comme la parole elle se confirme, n'est-ce pas ? Ce que le Seigneur a dit se trouve confirmé avant dans les exemples que nous avons dans l'Ancien Testament, mais elle l'a ensuite comme enseignement par l'apôtre dans les épîtres. Alors, deuxième décision, nous avons vu la première, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est la seconde. Lumière, dans la lumière doit être la sphère de toute notre activité. Ensuite, il est parlé de ce maître. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et cette phrase qui est absolue, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, ce seul maître, évidemment, dans toutes les acceptions du mot maître, n'est-ce pas, il y a, cette expression que donc on ne peut servir de maître, et il en donne la raison, parce que ou on aimera l'un et haïra l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et puis vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors là, nous avons comme verset un verset qui pourrait être la conclusion des six que nous avons lus, n'est-ce pas, le maître, et puis l'introduction de ceux qui suivront. Et on ne peut être sur la terre déjà à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. Le Seigneur affirme d'une façon péremptoire que cela n'est pas possible. Il en donne la raison, où l'homme aimera l'un et haïra l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et conséquence, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors, il est bien évident que là, il est parlé de maman. Pourquoi ? Parce que dès le début de notre paragraphe, n'est-ce pas, il est parlé des biens, que ce soit des biens terrestres, que ce soit des biens célestes. Et quand il est parlé du maître, qu'est-ce que la parole entend là par maître? Qu'est-ce que c'est qu'un maître? Dans la parole, on le trouve comme étant un chef, comme étant un conducteur, comme étant un docteur, comme étant un enseignant, un guide, un pédagogue, un rabbi. Eh bien, dans ces versets, c'est autre chose. Le maître, c'est celui qui possède un esclave. Le statut de l'esclave, et nous avons des cas dans la parole, de maître qui avait des esclaves. Philémon avait un esclave, on le connaît bien, il s'appelait Onésime. Et il est retourné chez son maître, n'est-ce pas? Il n'est pas sorti de sa condition d'esclave. Et Philémon est resté le maître. Caïphe avait des esclaves. On le sait, un malheureux s'est trouvé sur le chemin de Pierre, n'est-ce pas, qui lui a coupé l'oreille. C'était un esclave du souverain sacrificateur. Donc, c'est des choses qui, au temps du Seigneur, arrivaient et étaient courantes. Mais ça a perduré, n'est-ce pas? C'est Paul qui nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Esclaves, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement. » C'est-à-dire que, qu'est-ce qui caractérise l'esclave? C'est une subordination totale à la volonté de son maître. Je répète, une subordination totale à la volonté de son maître. Il ne décide rien, il exécute. Et alors, ça nous donne, n'est-ce pas, là aussi, il nous est dit, le Seigneur le dit, bien bon et fidèle esclave, tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître. Et cette relation de maître à esclave est encore renforcé dans le verset 24. Attendez donc. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez qu'il y a une petite note. C'est. Et puis la note en bas, qu'est-ce qu'elle dit? Servir ici, être esclave ou comme tel. Donc c'est bien ce que veut dire le Seigneur. Vous êtes esclave de celui auquel vous obéissez, et là, nous avons le choix, c'est le Seigneur ou Mammon. Il n'y en a pas deux, dans le contexte des biens matériels. Il y a d'autres faux dieux. Mais Mammon en est un. Mais qu'est-ce que c'est que Mammon? Mammon, c'est un terme araméen qui signifie « richesse », avec le pluriel. Il n'est employé qu'une seule fois dans la Bible, ici. Il n'y a pas d'autre exemple. Il est employé une fois dans un livre apocryphe, c'est l'Apocalypse, l'Ecclésiastique, pas l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique, qui est un livre qui n'a pas été retenu dans le canon des Écritures, et qui dit dans un chapitre ceci, « Bienheureux le riche qui ne court pas après Mammon », autrement dit, qui ne court pas après les richesses. Et on le retrouve traduit par « richesse injuste », »,« richesse » au pluriel, « injuste » au pluriel, dans Luc 16, qui est une répétition, n'est-ce pas, de la scène que nous avons ici, du discours que le Seigneur tient avec ses disciples. Il ne dit pas « vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Dans Luc, il dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses ». Alors voilà, d'un côté, on a un maître qu'on peut suivre, n'est-ce pas, qui pour nous n'est plus qu'un maître, puisqu'il est, en plus de cela, notre sauveur, notre Seigneur, notre berger, il a d'autres qualités. Ou alors, un qui est impitoyable, qui est Mammon, qui sont les richesses et qui ne satisfait jamais. Alors, il y a des choix à faire pour servir l'un ou l'autre. Et les choix que nous avons dans l'Écriture, eh bien, par exemple, c'est Moïse. Qu'est-ce que nous disent les Hébreux ? Moïse étant devenu grand, estima l'opprobre du Christ un plus grand trésor que quoi ? Que les richesses de l'Égypte. Il a méprisé Mammon, il a fait un choix. Il a suivi l'opprobre avec le peuple d'Israël, mais il a renoncé au Mammon d'Égypte, aux richesses de l'Égypte. Tout, c'est merveilleux de voir dans la parole, comme tous ces versets péchés, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, concordent tous à une cohésion merveilleuse. C'est vraiment émouvant. Et dans une grande épreuve de tribulation et une profonde pauvreté, les Macédoniens ont abondé dans la richesse de leur libéralité. Alors voilà une richesse qui n'est pas matérielle. Voilà une richesse qui est justement l'œuvre pour Dieu, n'est-ce pas ? La richesse de leur libéralité. Et puis, alors il y a ceux qui ont méprisé ces richesses. On en a un bon exemple dans Genèse 14 avec Abraham qui revient de la poursuite des rois, n'est-ce pas ? Et il arrive chez Melchisédek et qu'est-ce qu'il fait ? Il paye la dîme. Donc il se défait de ses biens matériels. Le roi de Sodome arrive et lui dit : donne-moi les hommes et prends les biens pour toi. Et qu'est-ce que répond Abraham ? Je ne veux pas qu'il soit dit que tu as enrichi Abraham. Il a payé la dîme, il s'est défait de ses biens, mais il n'en a refusé aucun. Il les a tous refusés de la part du roi de Sodome, qui, entre parenthèses, est encore une fois un type de Satan. Alors, nous voyons donc Abraham comme type, mais alors comme type contraire, qui est-ce qu'on a ? Vous l'avez tous deviné, c'est Judas. C'est Judas qui a préféré recevoir ce prix magnifique, comme dit Zacharie, de 30 deniers, mais il a livré son sauveur. Et alors, là, pourquoi ? Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que certains ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transportés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. 1 Timothée 6, 10. Voilà à quoi cela amène de aimer les richesses. Donc, il y a une troisième décision, servir le Seigneur à l'exclusion de toute autre autorité. Puisque là, n'est-ce pas, il y a ce service vu comme celui d'un esclave, veillant prioritairement à ne pas se laisser assujettir par l'attrait des richesses. Maintenant, nous arrivons à la plus grande partie de ce chapitre, mais somme toute, c'est le même thème, n'est-ce pas ? Et c'est comme une conclusion, et qui commence par ces versets que nous avons lus, qui, de nouveau, peuvent être une conclusion des trois que nous avions vus précédemment, mais qui ouvrent les neuf que l'on voit jusqu'à la fin du chapitre. Et qu'est-ce que l'on peut dire en comparaison des deux messages, des deux parties ? Dans la première partie, de 19 à 23, à 24, n'est-ce pas, on a plutôt l'impression que le Seigneur s'est adressé en parlant des riches. Tandis que, depuis le verset 23, il s'adresse plutôt aux pauvres. Ceux qui ont des grandes richesses, n'est-ce pas, c'est les riches. Généralement, les premiers, les riches, sont facilement hautains, présomptueux, ont tendance à se confier dans la sécurité que leur assure leur richesse, tandis que ceux qui sont pauvres sont souvent humbles, craintifs, et ils redoutent que leurs ressources viennent à manquer, n'est-ce pas? Et maintenant, en ayant posé les bases et les conditions dans lesquelles toute activité peut avoir lieu, toute activité du chrétien, le Seigneur, dès le verset 25, traite ses besoins essentiels de l'homme, nourriture, boisson et vêtements. Ce ne sont plus des choses inutiles, ce ne sont plus les richesses de Mammon. Ce sont les choses dont chaque homme a besoin chaque jour. Pour justifier appui, il le fait en utilisant trois fois la même phrase. Ne pas être en souci, ne soyez pas en souci. C'est réitéré trois fois. Et par cela, le Seigneur révèle la raison fondamentale applicable aux trois besoins essentiels. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Dès la création, Dieu a pourvu à l'entretien de la vie, mais une vie que lui avait donnée à sa créature. Et la chute n'a pas provoqué l'abandon de ses soins. D'ailleurs, on le voit dans le psaume 104, au verset 27, tous s'attendent, tous, les justes comme les injustes, s'attendent à toi afin que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Plus tard, n'est-ce pas, ça c'était sous la, il y a eu la création sous la loi. Plus tard, le Seigneur a prouvé l'immensité de son amour en envoyant son Fils unique, en qui nous avons la rédemption par son sang, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous fera-t-il pas donc aussi librement de toutes ces choses? Alors là, on a cette explication, n'est-ce pas? Nous ne valons, quand le Seigneur dit, ne vaut-il pas plus qu'un oiseau? Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que nous avons acquis par nos dons, mais non, nous avons de la valeur pour le Seigneur, pour Dieu, pourquoi? Parce que c'est son Fils qui nous a rachetés. Et nous avons vu ce matin à quel prix. Alors après nous avoir donné la vie, après nous avoir formé un cœur, pourrait-il nous abandonner? Ce serait mal le connaître. Et alors, pour que ça soit plus près des disciples, voilà, il leur parle des oiseaux. Pourrions-nous... étant donné qu'il insiste sur ce fait qu'il n'a pas épargné son propre Fils, et ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toute chose, comme il est dit en Romains? Pourrions-nous douter de cela? Le Seigneur, alors, prend l'exemple des oiseaux des cieux. Dieu nourrit, comme il l'a d'ailleurs affirmé lui-même à Job. Qui prépare au corbeau? Attention, un corbeau, c'est un oiseau impur. Qui prépare au corbeau, pourtant oiseau impur, sa pâture? Ça, c'est Lévitique 11. Quand ses petits crient à Dieu, Job a reçu la même instruction. L'exemple est compris dans le psalmiste, qui sa pâture, quand ses petits crient, l'Éternel qui donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie, ne ferait-il pas pour ceux qui valent beaucoup mieux qu'eux. Alors, le Seigneur nous ajoute encore une dernière raison. Qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Ce désir met en évidence la vanité de l'homme, oubliant que Dieu n'a pas égard à l'apparence de l'homme, mais qui recherche simplement quelque chose de visible, comme ces richesses, n'est-ce pas, que l'on peut exhiber c'est de la vanité. Et l'apôtre nous dit ceci, ayant la nourriture et de quoi nous couvrir. Là, il prend deux choses, pas seulement la nourriture, mais le vêtement, comme il en est le cas dans ce que le Seigneur disait à ses disciples. Ce verset pourrait à la fois conclure et servir d'introduction au dernier verset de ce chapitre, c'est ce que j'ai dit déjà. Et quand il a parlé, disons, de ces oiseaux, il a implicitement cité ce que la parole a dit, comme nous l'avons lu dans les psaumes ou à Job. Mais maintenant, la nature est de quoi nous servir, nous couvrir, pardon. Nous serons satisfaits, c'est 1 Timothée 6, n'est-ce pas? Et alors, le Seigneur cite maintenant les lys des champs. Il a cité ceux qui volaient dans les airs, les oiseaux. Il cite maintenant les lys des champs au sujet des vêtements. Ces fleurs magnifiques qui surpassent en splendeur la magnificence des parures royales de Salomon n'ont rien fait pour mériter cette gloire. C'est Dieu seul qui les apparaît. Et cela malgré leur vie si brève, n'est-ce pas? Le Seigneur prend la peine de nous dire, ils croissent, ils ne travaillent, ils ne filent, etc. L'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée. Donc, il nous donne l'impression que le Seigneur même, en tenant compte de la brièveté de la vie de ces plantes, n'est-ce pas, de leur faiblesse, n'est-ce pas, on arrive, on les cueille, on les brûle, eh bien, le Seigneur en prend soin. Le Seigneur s'adresse à ses disciples qui, eux, déjà, possèdent la vie éternelle. Et ses disciples, quand le Seigneur leur parle des vêtements et qu'il leur cite les lys des champs, qu'est-ce qu'il conclut? De quoi serons-nous vêtus? Car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Est-ce que l'on pourrait douter que notre Père céleste, sachant que nous avons besoin de ces choses, nous les refuserait? Est-ce qu'on réfléchit à cela? Mais le Seigneur voit qu'il y a probablement un peu de doute chez ses disciples. Pour nous, c'est très convaincant, parce qu'évidemment, on n'a pas vécu ces circonstances. Mais eux, n'est-ce pas? Ils n'avaient probablement qu'un vêtement, ces disciples. Ils n'en avaient pas un pour l'été, un pour l'hiver, et combien de choses que nous avons, nous autres. Et en leur citant ce dernier exemple des lys des champs, il peut le terminer par cette expression, gens de petite foi. Alors on se dit que le Seigneur savait toutes choses. Il a dit aux disciples, je me permets de suggérer, que pensez-vous que qu'il nous dirait, d'abord à moi, mais ensuite à tout le monde, dans notre attitude, pourrait-il nous dire, vous avez totalement confiance en nous, en moi, en mes promesses, en mes ressources, gens de petite foi, puis réfléchir. Et le Seigneur n'a employé cette expression, gens de petite foi, que 5 fois dans la parole, c'est pas beaucoup. Et 3 fois, c'est au sujet de la nourriture et du vêtement, comme pour dire, c'est comme s'il disait, non, faisons une paraphrase, vous avez assez de foi pour avoir la certitude de votre salut éternel, assez de foi pour croire en la rémission de vos péchés, pour croire en un avenir glorieux pour l'éternité. mais pas assez pour croire que vos besoins matériels seront satisfaits. Point d'interrogation. C'est là qu'il a envie de montrer où notre foi doit être vivante. Il y a dans cette incrédulité une incohérence coupable. Et perturbant la vie du chrétien, et c'est infiniment plus grave, c'est un affront que l'on fait à notre Seigneur en permettant des circonstances sur nous et plus d'autorité que ses promesses. Et alors là, je me permettrai de faire une allusion à ce que j'ai lu. J'ai lu beaucoup de commentaires sur ces passages, et des très anciens. Mais il y en a un qui, arrivé à ce passage-là, est d'une véhémence que je n'aurais jamais imaginée. Et c'est celle de John MacArthur. Et quand il médite ce passage, vous devriez, je pense que plusieurs d'entre nous avaient ces livres, hein, mais vous devriez lire ça. Il déclare, mais que c'est un péché grave que de douter de des promesses du Seigneur quant aux besoins qu'il veut satisfaire pour nous, que ce soit par la nourriture, que ce soit les boissons, que ce soit les vêtements. Il va très très fort. Il pense que c'est une horrible offense que l'on fait à Dieu de ne pas non seulement croire ce qu'il dit, ne pas seulement croire sa parole, mais à notre intérieur douter et se faire du souci de penser, mais qu'est-ce que, puis la fin du mois, quand c'est que ça arrive, puis c'est... Bon. Alors, évidemment qu'il y a des exercices, mais là, le Seigneur met l'accent. Il a donné toutes les raisons pour, n'est-ce pas, les lys, mais le Seigneur, le Dieu en prend soin. Les corbeaux, mais il leur donne la nourriture. Il sait ce dont vous avez besoin. Et quoi? Vous doutez encore? Genre de petite foi. Voilà ce qu'il veut dire. Alors, après les avoir qualifiés de gens de petite foi, le Seigneur, pour la seconde fois, les enjoint. Ne soyez donc pas en souci. Il y a un petit mot de différence avec la première phrase. La première fois, c'était « ne soyez pas en souci ». Ici, c'est « ne soyez donc pas en souci », ce qui veut dire « maintenant que vous avez entendu tous mes arguments, n'allez pas encore douter. Ne soyez donc », il se réfère en leur disant « j'espère que vous avez bien entendu ». Et alors, il renforce cette fois ce mot donc pour les dissuader d'être en souci, mais en ajoutant en plus une troisième raison pour ne pas être en souci. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Il les connaît. Il prend soin de nous, connaissant ce dont nous avons besoin. Et qu'est-ce que nous pourrions objecter à cette affirmation, qui est d'ailleurs confirmée par l'autre, Philippiens 4, « Mon Dieu suppléera à tous vos besoins. » Tous mes besoins, c'est encore bien plus que la nourriture, que la boisson et le vêtement. Tous mes besoins. Eh bien, « Mon Dieu suppléera à tous vos besoins. » Et assurément, notre marche doit être aussi conforme avec les caractères du royaume de Dieu. Parce qu'après avoir dit ça, eh bien, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne soyez donc pas en souci, que mangerons-nous? Car votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses, mais, il y a un mais, qui pose comme une condition, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, on dirait que l'apôtre accumule les raisons pour lesquelles nous devons nous abstenir de douter. Il accumule les raisons. Et ici, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est pour nous? C'est que, assurément, notre marche nous a placés dans une nouvelle naissance, selon Jean 5,5. Et si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu que nous avons donc décrit en Romains 14, verset 17. Et où, qu'est-ce qu'il est dit? Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais c'est la substance de tout ce que nous avons étudié, n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ici, chercher premièrement le royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est être occupé premièrement des intérêts et de la justice de celui auquel nous appartenons désormais, et puis que ce souci que nous avons de nous intéresser à ses intérêts soit désormais la priorité du chrétien, priorité qui est déjà récompensée par la promesse que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, nourriture, boisson et vêtements. Donc, le Seigneur l'a accumulé toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons avoir une pleine et entière confiance dans ses ressources, dans ses promesses. Et la conclusion finale de ce chapitre, pour la troisième fois, le Seigneur réitère son exhortation. Ne soyez donc pas en souci. Mais elle en argit. Il en élargit la portée. Il se réfère au lendemain. Comme il a pris soin de nous jusqu'à ce jour, il continuera de le faire demain, s'il ne nous reprend pas entre-temps. Et ce qu'il a très bien, et c'est ce qu'a très bien compris Pierre, qui affirme, rejetant sur lui tout votre souci. Pourquoi? Car il a soin de vous. De plus, s'inquiéter du lendemain, c'est gravement ignorer la fidélité qui est un caractère essentiel de Dieu. La fidélité est un caractère essentiel de Dieu. Ses compassions ne cessent pas. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est pourquoi j'espérerai en lui. Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Dernier verset. À chaque jour suffit sa peine. C'est ce qu'ont bien compris, par exemple, Élie à Sarepta. Il n'y avait qu'un fond d'huile dans la cruche, qu'un fond de farine. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Premièrement, va et fais-moi une galette. Et le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne manqua pas. Un roi 17. Et la pauvre veuve de Luc 21. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Celle-ci a jeté au trésor de sa pénurie tout ce qu'elle avait pour vivre. Si elle a tout jeté, elle n'avait plus rien. Donc, une preuve qu'elle faisait confiance. Et j'aimerais citer deux versets de la parole. Encore, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Quelle est la raison? Car il se confie en toi. C'est ce que le Seigneur a voulu apprendre, enseigner à ses disciples. Confiez-vous en l'Éternel à tout jamais, car en Jah Jéhovah est le rocher des siècles. Ésaïe 26. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Je pense que ces versets concluent parfaitement l'enseignement que le Seigneur a voulu nous donner ce soir et qui, disons, est particulièrement d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus volatile que les richesses du monde. Rien de plus volatile que cela. Et des fortunes disparaissent à l'ouverture de la bourse. C'est peu de temps. Mais sa fidélité est de toujours. Et il sait. Pensez que on se fait du souci quand le Seigneur aurait besoin de dire, mais tu ne sais pas que je sais que vous en avez besoin. Ça ne nous empêche pas de le lui demander, n'est-ce pas? Mais avec cette certitude qu'il sait et qu'il va nous exaucer en fonction de ce qu'il est lui-même, en fonction de sa fidélité, en fonction de ses promesses.